someone tells me I'm wrong, but you I never can tell. The way you drag me along, the way I put you through hell. Tell me, am I insane? Is this where we belong? Is it pleasure or pain that we're still hanging on? Going out of my head, you know true love is dead, but what you said has got me hanging on. I can't help but walk through your landmines, 10 feet and I'm going out of my mind. I'm not right without you, is that so wrong?
Et vous écoutiez Landmine de Sum 41, qui n'est pas la chanson du moment. Cette tune-là, pour vrai, je suis sincèrement incapable de me faire une idée dessus. Genre, je l'aime pas, je l'écoute quand même, mais c'est définitivement pas le genre d'affaire que j'ai envie d'écouter comme en repeat. Mais je suis comme pas capable de l'aimer non plus. Fait que j'ai vu cette tune-là en intro pour que vous puissiez au moins faire votre première opinion dessus, votre opinion dessus si vous ne l'avez pas entendu. Puis, aussi pour faire peut-être une petite annonce en même temps qui n'est vraiment pas en lien avec le podcast, en fait, mais quand même vraiment important, qui est quand même passé très, très under radar, qui, j'estime, est quand même une nouvelle qui est relativement importante dans le monde de la musique, en fait. C'est que Sum 41, au début du mois de juin, je pense, pas de même, ont annoncé qu'ils se séparaient. Fait qu'ils vont faire une dernière tournée, puis qu'après ça, dans le fond, Sum 41 ne sortiront plus de musique. Puis Sum 41 est un gros, gros ben pour le monde de mon âge, définitivement. Genre, on grandi sur Sum 41, c'est vraiment quelque chose qui a... énormément influencé le rock, le punk, puis je dirais même la musique en général. Si vous êtes nostalgique un peu, Sum 41 sont présentement dans leur dernière tournée à vie. Sur leur site, pardon, j'ai checké comme récemment, ils n'ont pas de nouvelles dates comme de tournée ou d'affaires de même, mais ça serait quand même surprenant qu'ils fassent juste une affaire de genre 3 mois, tu vois, ben, les pauvres, fini, puis jamais de musique, là. C'est quand même Sum 41. Mais ils devraient quand même faire une dernière tournée, fait que jamais ça vous intéresse d'y voir. Dernière chance. Fait que moi, je vais vraiment, vraiment essayer d'y aller. Pour vrai, je pense que c'est un band qui est super. Je pense que c'est un des... Si je ne me trompe pas, c'est un des premiers bands que j'ai acheté. C'est-tu Sum 41? Le premier album que j'ai acheté de ma vie avec l'argent que j'avais ramassé en tondant des gazons, genre. C'était Sum 41, All Killer, No Filler. Je suis pas mal sûr. Ah non, c'est pas vrai, c'était avant. C'était pas All Killer, No Filler, c'était le premier. C'est lui qui ont genre des guns à l'eau là, sur le top. En tout cas, bref, j'ai oublié le nom. Mais c'était l'album avant leur plus gros album qui est All Killer No Filler. Je suis pas mal sûr que c'était celui-là. Puis bref, dernier show, The Last Call, Sum 41, si jamais vous avez envie de voir ça. Puisque vous savez que vous avez envie de voir, dernière chance pour Sum 41. Au niveau du podcast aujourd'hui, j'ai écrit un email le matin que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça fait tellement longtemps que je me cherche un excuse pour vrai pour écrire sur Mohamed Ali. J'ai envoyé un email là-dessus comme un matin. Puis... C'est vraiment un sportif que j'aime beaucoup d'un, son style, son charisme, sa relation. C'était un excellent athlète, puis ça a aussi été quelqu'un qui a fait beaucoup, beaucoup dans le domaine des droits civils. Il a été beaucoup impliqué dans tout ce qui était genre avancement des droits des Noirs, respect des droits des enfants, entre autres, à l'école. Puis il a tout le temps, il s'est opposé publiquement en étant black à une époque où est-ce que, c'était pas comme ségrégation, racisme pur. Mais il y en avait quand même pas mal, là. Genre, tu sais, c'était pas tant évolué, puis tu sais, en théorie, il n'y avait plus de racisme, mais il y en avait quand même pas mal, pas officiellement, tu sais. Puis le gars est un champion mondial, il avait beaucoup à perdre de sa figure publique puis de ses combats, puis il a quand même pris beaucoup de positions publiquement qui estimaient qu'il n'était pas correct. Genre, il s'est opposé à la guerre du Vietnam, puis il a défendu aussi les droits des Noirs dans de nombreuses occasions. Fait c'est vraiment un athlète que je respecte beaucoup, puis j'ai écrit un email là-dessus, puis tout le monde connaît les citations, genre, de Mohamed Ali, qui est genre... comme de frapper comme une abeille ou des affaires de même, là, tu sais, puis c'est « float like a butterfly, sting like a bee », fait que comme « vol », pas « vol », mais « flotte comme un papillon, frappe comme une abeille », qui comme qui a son style très, très agile, mais qui frappe vraiment, vraiment fort, puis il y a plein de citations vraiment connues de Mohamed Ali, mais une citation qui est vraiment, vraiment pas connue, j'estime, est la plus cool, puis c'est au cours de sa carrière, genre, tous les journalistes ils ont tout le temps demandé, parce qu'il était vraiment, vraiment dominant très tôt, là, tu sais, sur 21 ans de combat, ce qui est énorme, là. C'est vraiment, vraiment beaucoup, man, là. Sur 21 ans de combat, il en a perdu 4, genre, 4 ou 5 en affaire de même. Fait que, tu sais, c'était une légende vivante, là, Mohamed Ali, carrément, là. Puis, il s'est tout le temps fait poser la même question de comment tu fais pour rester au top, c'est quoi l'aspect le plus dur du training, tu sais, comment tu structures ça. Puis, sa réponse est tellement malade, man. Sa réponse, c'est tout le temps été la partie la plus dure de l'entraînement, c'est pas de me lever pour aller courir, c'est pas de faire les entraînements de boxe. La partie difficile de l'entraînement, c'est d'éviter les filles puis les clubs de nuit, comme les bars, dans le fond. Puis d'être couché genre le soir à 9h. Puis cette idée-là est tellement malade parce qu'il y a plein de monde dans le monde sportif qui l'ont dit de différentes manières. Tu sais, Bruce Lee a déjà dit aussi en entrevue que c'est genre le guerrier, je sais pas comment traduire successful, mais le guerrier qui a du succès, mettons, disons ça comme ça, c'est un homme normal avec un laser focus precision. Fait que tu sais, c'est un homme normal avec une concentration comme laser focus, genre. Puis c'est tout le temps cette idée-là d'éviter toutes les affaires. Puis il y a beaucoup d'affaires dans le monde de l'entraînement qui partent. Il y a beaucoup d'affaires de gains que le monde n'a pas, qui ne viennent pas nécessairement de ce qu'ils font, mais de ce qu'ils font pas ou de ce que tu choisis consciemment de ne pas faire. Puis pour choisir consciemment de ne pas faire ou de mettre ton emphase, c'est la raison pour laquelle j'estime, probablement la deuxième raison pour laquelle le monde n'a pas de progrès au gym. La première, c'est que la plupart du monde est en train de juste passer fort pour avoir des résultats. Puis si tu ne suis pas de structure puis tu n'as pas de progression dans le temps, ben, tu ne peux pas t'attendre à ce que ton corps change ou d'avoir une progression quelconque sur ton physique. Là. C'est illogique d'assumer ça. Là. On n'a pas survécu à des milliers d'années d'évolution pour qu'on puisse juste contacter nos biceps et les faire grossir. Là. C'est pas comme ça que ça marche. Les humains qui ont survécu à des famines pendant des milliers d'années avec des gestions excessivement serrées des ressources énergétiques. T'sais. Puis le premier point, c'est vraiment comme l'intensité qui n'est pas là. Puis la deuxième affaire, c'est probablement le fait que le monde a de la misère à vraiment, vraiment bien cibler leur KPI et à vraiment comprendre sur quoi on met l'emphase. Parce que si tu essaies de tout faire en même temps, par définition, OK? Par définition, c'est pas une priorité. Fait que cette capacité-là à focusser sur des éléments précis, puis à vraiment comprendre tout le concept de spécificité, que les adaptations sont spécifiques aux traits d'entraînement qui sont imposés au corps. Fait que si tu veux progresser une chose, il faut que tu fasses des actions qui vont dans cette direction-là. Puis là, ça a l'air très obvious, ça a l'air très banni, ça a l'air donc évident. Mais dans l'application, c'est vraiment, vraiment pas ce que le monde font, tu sais. Puis un exemple qui serait vraiment flagrant de ça, c'est que tu arrives au gym, tu fais une perte de gras, par exemple, puis là, tu commences à vraiment focusser sur prendre la force, tu mets de l'emphase sur ton cardio, tu mets de l'emphase sur ton plan alimentaire, tu mets de l'emphase sur tout en même temps. Puis là, tu te ramasses à avoir tellement d'affaires qui progressent en même temps que tu n'as pas la moindre idée de ce que tu fais, puis tu ne sais même pas si tes vrais marqueurs embarquent. Puis cette idée-là de se concentrer, bien, ça te demande vraiment clairement d'identifier tes points clés puis tes cibles d'intervention, qui est exactement ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Fait que, outre mon intro, genre de 3 minutes pour dire que Sum 41 était comme la scale, c'est vraiment, vraiment ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Je vais essayer de décortiquer la plupart des objectifs en donnant mes indicateurs clés sur quoi, moi, j'estime que les gens doivent vraiment, vraiment mettre l'emphase lorsqu'ils comptent des phases d'entraînement ou qu'ils sont en phase d'entraînement précise. Puis, la première affaire, c'est que c'est vraiment important pour ramener l'idée que j'ai tout le temps sur un podcast, mais c'est vraiment important. Si tout est une priorité, par définition, rien n'est une priorité. OK? Fait que ça te demande d'imaginer vraiment puis de vraiment, vraiment clairement cibler ce que tu essaies de faire puis qu'est-ce que tu veux faire. La question que moi, j'adore utiliser avec mes clients, c'est comme une question plus de projection pour deux raisons. Un, parce que je suis un être fondamentalement égoïste. Puis, ça fait que je me sors une liste de restaurants en même temps que j'ai pour vrai. J'ai plein de listes de restos comme intéressants à aller voir au monde parce que c'est la question que je pose comme dans les premières rencontres. Tu sais, puis la question que je demande, puis le deux, parce que ça permet au monde de comme mapper où est-ce qu'ils veulent aller clairement. Tu sais. Puis la question que je demande, c'est, alors, mettons, on se croise dans 6 mois à ton resto préféré. Puis là, préalablement, j'aurais demandé c'est quoi ton resto préféré. Tu sais, comme ça, moi, je le note en même temps. Puis là, elle me dit, mettons, Belle et la Bœuf à Terrebonne. Je ne sais même pas s'il y a un Belle et la Bœuf à Terrebonne. Fait que c'est, mettons, je dis, bon, alors, on se croise au Belle et la Bœuf à Terrebonne dans 6 mois. Ça ressemble à quoi, genre, hey Alex, c'était la meilleure année de ma vie niveau entraînement. Tu sais, t'as l'air de quoi là-dedans? Puis là, la personne a commencé à me dire, ben, tu sais, ça serait probablement ça. Souvent, le monde prend le temps d'y penser parce que c'est toutes des questions que le monde n'a jamais pris le temps de se poser. Si je veux perdre du gras, je veux prendre du muscle, mais t'es comme, ben, pas tant, ou peut-être pas nécessairement. Ça, c'est plus des objectifs qui sont souvent introjectés. Genre que le monde s'imagine qu'ils veulent faire ça, mais ils n'ont pas pris le temps de vraiment, vraiment préciser. Puis après une certaine étape, tu te rends compte, genre, de, ah, ben là, je veux perdre du gras, puis parfait. Ben, tu sais, est-ce que tu fais attention à ton alimentation? Ben non, mais je m'entraîne 3 fois. Mais t'es comme, c'est un des marqueurs principaux. Puis à partir du moment que t'as pas fait une direction claire de où est-ce que tu vas, ou tu sais pas clairement c'est quoi la destination finale, il y a fuck all rien qui fait du sens. Parce que même si tu t'en vas à 100 km/h d'un bord vers Québec, puis toi, ultimement, tu t'en vas vers Montréal, même si tu roules à fond la barrure d'où, tu vas pas dans le bon sens. Puis c'est vraiment, vraiment important de visualiser ça en entraînement parce que non seulement les directions ou les autos que j'utilise pour faire une vitesse, la plupart des véhicules qu'on utilise comme des marqueurs de progrès, non seulement sont différents selon les objectifs, mais souvent sont carrément en opposition, à savoir que tu as certains marqueurs entre eux qui vont se nuire. Puis je te donne un exemple très, très, très simple qui vraiment ne paraît pas de ça. Mais si tu cours beaucoup, ça se peut que dans une phase de perte de gras, ça soit très problématique. Même si en théorie, on dit « Ah, je fais beaucoup de cardio, ça va bien, je vais perdre du gras. » Bien, si tu as une grosse dépense énergétique, mon homme, réalistiquement, la faim va suivre parce que le corps humain, c'est une machine biologique merveilleuse. Puis que si tu as un très, très haut niveau d'activité physique, puis que tu te promènes à avoir faim, avoir envie de manger mûr non-stop parce que tu es en grosse phase de course, c'est sûr que ta perte de gras ne sera pas idéale. Au minimum, ta récupération ne sera pas idéale, ce qui va impacter d'autres comportements qui sont moins idéaux. Mais c'est sûr même que ça ne sera pas perfect juste à cause que tu as faim. Puis même si tu te ramasses à constamment te battre contre ta volonté, ce qui est vraiment... C'est vraiment pas là que tu veux être. En fait, tu veux être à l'opposé complet de ça, man. Tu veux que ça coule le plus possible et d'avoir le moins de résistance. Fait que si tu as un haut niveau de dépense énergétique via une autre phase d'entraînement de course, puis toi, tu fais une perte de gras en même temps, tu mets toutes les chances de ton contre toi, genre, exactement contre toi. Dans une phase de perte de gras, pour commencer, mettons, le sujet du podcast aujourd'hui, dans une phase de perte de gras, c'est beaucoup plus une notion d'activité physique totale qui va être importante, à savoir que c'est ton nombre de pas dans la journée, c'est comment tu es actif, parce que si tu es carrément très, très sédentaire, ben, ça change la dépense énergétique totale, ça change combien de calories tu brûles, entre guillemets, au repos, puis ça, on se ramasse à devoir faire des diètes de misère pour être en déficit calorique, parce qu'essentiellement, c'est juste ça qu'on essaie de faire dans une perte de gras. On essaie qu'il y ait moins de calories qui rentrent que qui sortent. Fait que ça, tu peux couper ça via l'alimentation ou tu peux augmenter ton activité physique. Là, il y a d'autres manipulations qu'on peut faire en termes de type d'aliment, dans le sens que l'effet, le coût digestif des protéines est un petit peu plus élevé, puis il y a une couple d'autres petites variables qu'on peut jouer, mais essentiellement, les variables qu'on contrôle le plus et qui ont le plus grand impact, c'est même pas tant l'entraînement. Fait que si toi, tu focuses sur le gym pour perdre du gras, puis tu fais des gros workouts, des giant sets, des affaires métaboliques qu'on voit souvent, c'est pas que l'impact est inexistant. L'impact est tellement petit. En fait, l'impact est juste tellement petit que ça n'a pas tant d'impact. Puis là, si tu me jumelles à d'autres choses, de genre, t'es sharp sur la bouffe, t'as un haut niveau d'activité physique, tu marches beaucoup, tu fais ton 10 000 pas, 7 000 pas, 8 000 pas, c'est bien mais rare que moi, joueurs du monde en perte de pas qui vont être à moins de 8 000 pas par jour, sincèrement. C'est même souvent, ça va être plus prioritaire que le training, puis même dans une phase de perte de gras, on va se ramasser où est-ce que le gym est pas mal juste là pour maintenir la masse musculaire. Ce qui est l'objectif, tu sais, si tu veux perdre du gras, puis que l'objectif, c'est pas juste de perdre du gras, c'est d'avoir une meilleure shape, ben, tu veux pas perdre toute ta masse musculaire, man, parce que tu vas juste tomber skinny après, puis c'est l'objectif. Ça dépend qu'est-ce que tu veux. Si tu veux clairement perdre du gras, ben, t'as réussi. Mais si tu veux garder une certaine shape en dessous, ça, c'est l'erreur que le monde fait tout le temps. Si t'as pas de muscle avant de perdre du gras, puis tu vois pas puis t'as pas des abdos définis, puis tes abdos sont pas musclés, ou ton chest est pas défini, puis il est pas musclé, t'en auras pas plus après ta perte de gras, mon chum, là. Genre, tu sais, t'as juste perdu du gras, puis ça peut ne pas être l'objectif, mais encore là, c'est vraiment, vraiment important de clairement le cibler, tu sais. Puis tu développes pas de la masse musculaire en même temps que t'en perds, parce que pour développer de la masse musculaire, ça te demande d'être en surplus calorique. Perdre du gras, ça te demande d'être en déficit calorique. Fait que les deux adaptations sont carrément opposées. Puis ça, c'est vraiment, vraiment important. Il y a une manière de se stacher comme quelque part dans le milieu qu'on appelle une recomp, là, mais pour la plupart du monde, c'est pas une super idée, parce que comme j'ai dit, une recomposition, dans le fond, ce que tu vas faire, c'est que tu vas stacker les apports caloriques en maintien ou en très, très léger surplus. Puis essentiellement, ce que tu vas faire, c'est de rester pas mal au même body weight, mais de perdre du gras et de prendre un peu de muscle. Sauf que la plupart du monde ont de la misère à se focusser sur une... comme j'ai dit comme en intro, le problème, c'est que le monde a de la misère à se focusser sur ce qui compte, puis ont tendance à être autant diverti par la nouvelle diète, les nouveaux exercices, la nouvelle affaire, le nouvel truc, qu'ils ont de la misère à rester stable puis à vraiment, vraiment se concentrer sur ce qui compte. Puis là, d'avoir un recom, tu te ramasses à jouer sur deux côtés comme en même temps. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise idée, c'est juste pour la plupart du monde, ça accentue le problème existant à la base, tu sais. Fait que, ça pour dire, fait que c'est vraiment, vraiment important de vraiment, vraiment clairement cibler ses priorités. Puis c'est une des raisons pour lesquelles le monde progresse pas, parce que c'est tout faire en même temps, puis tout compétitionne, puis minimalement, genre, logistiquement, en termes d'effort, puis en termes de volonté, puis en termes de psychologie, disons ça comme ça, ça fait tellement d'affaires à te concentrer tout ça en même temps que c'est vraiment dur. Tandis que moi, souvent, je sors vraiment en priorité, puis c'est ça que je vais faire avec mes indicateurs clés de performance pour chaque objectif. Je vais donner 1, 2, 3 points qui vont être, c'est ça qui est malade, ça va être essentiellement les mêmes points, sauf que le marqueur de succès n'est pas le même, et ça, même si on mesure le même point, tu sais. Puis je vais essayer de faire un 1, 2, 3, juste pour vous donner une petite idée de comment moi je structure ça. J'en ai parlé un petit peu comme la perte de gras, mais c'est l'objectif un des plus communs que le monde a. Fait que je vais quand même faire un petit recap. Là. Au niveau de la perte de gras, essentiellement, la première affaire que tu veux, c'est une gestion des apports alimentaires. Tu ne veux pas avoir des apports alimentaires qui sont vraiment, vraiment très élevés. Ce qui est beaucoup moins grave dans une phase de maintien, qui est beaucoup moins grave dans une phase de surplus calorique ou de prise de masse. T'sais. Puis même, je vous dirais, dans une phase de performance, au gym, en force, à course à pied, idéalement, tes apports alimentaires, ils seraient en léger surplus pour favoriser la récupération, minimalement en maintien. T'sais. Fait que là, si tu es en perte de gras, c'est une des seules occasions où est-ce que tes apports sont en perte de gras. Fait que c'est vraiment, vraiment l'emphase, c'est faut que tu saches à peu près combien de calories rentrent dans ton corps. Ça, c'est probablement le plus important. Puis, je vais le mettre en 1, 2, 3 juste pour rendre le podcast plus soft et plus facile, genre à écouter puis à illustrer, mais c'est vraiment important de ne pas le séparer. C'est vraiment important de ne pas faire « Ah, c'est ça ou ça ». C'est un ensemble de toutes ces variables-là qui font que ça marche. Puis c'est vraiment, vraiment difficile d'avoir une variable sur trois, puis t'imaginer que ça va marcher, ou même d'avoir deux variables sur trois. C'est vraiment, vraiment important. Puis c'est une des raisons pour lesquelles moi, j'ai arrêté de faire de la perte de gras sans faire l'entraînement à côté, parce que généralement, pour vrai, les résultats sont vraiment, vraiment, lorsque présents, là, sont vraiment, vraiment moins grands quand le monde s'entraîne pas. Puis c'est peut-être moi qui est juste pas bon, man. C'est peut-être moi qui est juste pas capable de faire progresser le monde sans qu'il s'entraîne aussi. Ça pourrait être le cas. Fait que, niveau alimentaire, tu veux les apports énergétiques qui sont en déficit. Ça, c'est vraiment, vraiment important. La plupart du monde, ton poids corporel fois 12, ça devrait te donner à peu près ton poids corporel en livres fois 12, ça va te donner à peu près tes apports caloriques que tu devrais respecter pour être en perte de gras. C'est pas juste de partir magiquement avec ce nombre-là, c'est d'ajuster après. Effectivement, mettons, ça te donne 2000 calories, par exemple, de maintien. Effectivement, mettons, moi, je pèse 180, puis le fois 12, ça va me faire pas mal ça, peut-être 2100, une affaire de même. Ben, je pars à 2100, je tiens ça une à deux semaines, puis après ça, j'ajuste selon les résultats. Si je perds trop de poids, ben, je monte mes apports, ce qui arrive relativement souvent. Monte un petit peu, peut-être 100-150 calories, puis j'en perds pas assez. ou j'en perds pas, mais on peut rebaisser encore un peu. Ou on peut aller au deuxième point pour la perte de gras, qui serait de monter l'activité physique totale. Comme j'ai dit, ça risque d'être beaucoup plus important que la course, puis même que le training, à savoir que tu vas être actif dans ta journée. Puis ultimement, pour la perte de gras, la course, ça devient quasiment juste ça. Ça devient quasiment juste une condensation en très peu de temps de pas. Dans le sens que, moi, je vais courir 5 km, ça va me prendre, dépendant à quel point les chiens sont TDAH, je vous dirais, là, genre, ça arrête pour sentir, ça arrête pour une crotte, ça arrête pour un pipi ou des affaires de même. Là. Mais tu sais, dépendant à quel point le chien est TDAH, entre 35 puis 28 minutes, là, s'il est vraiment concentré, ben en 30 minutes, je vais faire, mettons, 5000 pas, ce qui représente une marge de peut-être une heure et quart. Fait qu'en perte de gras, c'est quasiment juste ça. C'est juste une période vraiment, vraiment condensée de pas puis d'activité physique. T'sais. Tandis que lorsqu'on va stopper, fait que ça serait mon deuxième paramètre, parce que tu vas avoir une dépense énergétique qui est le plus haute possible pour ne pas descendre les calories le plus bas possible puis tomber dans les affaires de misère. Ça, c'est vraiment, vraiment important, sincèrement. Parce que juste l'intervention n'est pas soutenable. Tu veux avoir, dans le fond, c'est pas compliqué. Tu veux pas baisser tes calories le plus possible. Tu veux caler tes calories le plus hautes possible. Puis avoir un niveau d'activité physique qui fait que tu n'as pas faim tout le temps, mais que tu es quand même relativement actif. Puis tu n'as pas besoin de mettre trop d'efforts de volonté ou de logistique. T'sais, si tu as besoin de faire 20, si tu as besoin de faire 15 000 pas par jour pour perdre du poids, puis tu as besoin de marcher 3 heures par jour, ça se peut que dans ton 9 à 5 avec les enfants, ça ne fait pas tant. C'est que tu veux le plus d'activité possible sans monter le ressentiment mental lié à l'effort de la marche. Puis tu veux le plus de calories possible en perdant du poids. T'sais. Tout le temps que le monde mange le plus possible, pas l'inverse. Ça, c'est vraiment important. Puis le troisième, c'est que l'entraînement devient quasiment juste un maintien de la masse musculaire. Dans le sens que tu peux peut-être pousser une ou deux affaires en même temps, puis des petites priorités, mais c'est vraiment un puis deux qui vont être prioritaires. Puis le troisième, le training est quasiment juste en maintien. Fait que tu vas au gym, tu peux t'entraîner un 3-4 fois semaine, très très relax, 45 minutes, t'as une série à l'échec par groupe musculaire, fait que c'est relativement soft. Puis tu vas être capable de progresser si tu mets ton emphase sur ce qui compte au niveau de la perte de gras. Tandis que lorsqu'on tombe dans la prise de muscle, c'est 100% l'inverse. 100% l'inverse, tu veux que tes apports soient en léger surplus calorique. Fait que tu veux manger plus de calories que ce qui sort dans ton corps, compte tenu de ton activité physique. C'est un peu le même calcul de, tu pars, je vous dirais, moi, la plupart du monde, on peut les partir à... C'est quand même dur à dire parce que ça dépend un peu comme l'affaire des pas que je disais tantôt, tu sais, ça dépend quand même beaucoup d'à quel point le monde sont actifs. Puis c'est un gars qui travaille sa construction puis qui bouge vraiment beaucoup, ben c'est comme pas la même affaire que quelqu'un qui est un bureau, je vous dirais, mais généralement, moi je vais partir mon monde vers un x15, x16, fait que poids en livre x16, ça va à peu près me donner où est-ce que je starte le monde, après ça j'ajuste selon les résultats. Très 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 important, 0.5 une livre par mois pour la prise de masse, même une livre. Une livre par deux mois, si tu ne prends pas trop de gras, là, une livre par deux mois, c'est vraiment, vraiment très bien. Puis ça peut être en bas de ça, sérieusement. La prise de masse, le monde s'imagine que tu vas pas 10 livres en un mois, là, c'est pas ça qui va arriver maintenant. C'est vraiment, vraiment insidieux, puis c'est vraiment, vraiment long. Fait que, à part de maintien. Puis là, l'autre affaire, c'est que le gym devient vraiment prioritaire. Là, il était comme en troisième, quasiment maintien, mais là, c'est absolument plus le cas. Ça devient vraiment, vraiment une question de qu'est-ce que tu fais dans ta phase d'entraînement actuelle? T'as-tu de la misère à bien ressentir tes muscles? Si tu as de la misère à bien sentir, tu vas avoir bien de la misère à l'hypertrophier, mon homme. Fait que tu veux vraiment mettre l'emphase sur le gym à bien sentir ça. Si tu as de la misère à rentrer du volume d'entraînement parce que toi, tu fais tout le temps, tu casses après un certain temps, bien là, ça, c'est quasiment ton marqueur principal. Ça augmente ta capacité de tolérer du volume dans le gym. Ça devient vraiment, vraiment prioritaire. Tantôt, c'était juste en maintien. Là, c'est vraiment priorité limite 1, 2, 1.5, 2 peut-être, mais vraiment, vraiment très haut. Puis les pas deviennent juste une manière de parvenir à l'objectif A en termes d'alimentation. Ça devient juste une manière de contrôler, roughly, les dépenses énergétiques. On n'a pas grand-chose à chier de tes pas, dans le sens que je t'invite fortement à être actif, d'aller bouger pour ta santé et ton plaisir, c'est super important, mais en hypertrophie, ça n'aura pas tant d'impact. Là. Peut-être légèrement faciliter la récupération, mais sérieux, c'est vraiment, vraiment mineur. Faut pas comme pas que tu bosses là-dessus tant que ça. Là. C'est vraiment, vraiment de focusser sur ton sommeil, de focusser sur ta gestion du stress, de focusser sur avoir des gros workouts, puis de manger avec des légers surplus. Fait, non seulement tout ce que je vous ai dit, c'est opposé à la perte de gras, mais c'est différent de la perte de gras, mais c'est carrément opposé, c'est l'autre bord du spectre. Il y a peut-être juste la récupération, sommeil, stress, qui est aussi très important pour la perte de gras, mais vous comprenez l'idée, si tu bosses ces deux affaires-là, c'est ce que la plupart du monde essaie de faire, les deux trucs en même temps, les marqueurs de succès sont carrément opposés. Fait que no shit que tu te ramasses dans une spirale d'insatisfaction, mon homme, parce que tu essaies de pousser deux affaires qui ne marchent pas tant en même temps, puis c'est la même affaire au niveau de la force, de genre, si t'embarques en termes de prise de force, tu veux que tes charges montent. Fait que ça, réalistiquement, ça veut dire de monter les apports, peut-être prendre un petit peu de body fat, puis vraiment t'assurer d'arriver top shape à tes workouts, de prendre le temps de le mettre de l'avant, de prendre tes longs temps de repos, de vraiment t'assurer que tu peux vraiment, vraiment pousser ton training, puis de le mettre vraiment, vraiment en priorité, tu sais. Puis c'est pas tant ça en termes d'hypertrophie non plus, parce que l'hypertrophie, ultimement, c'est une fraction, dépendant de c'est quoi ton élément limitant, tu sais. Il y a du monde qui va être limité par leur capacité de produire de la force, du monde qui va être limité par leur capacité de tolérer du volume, il y a du monde qui va avoir de la misère. À partir du moment où est-ce que tu sors l'aspect technique, là, qui est genre Est-ce que tu sens bien ton muscle? As-tu une bonne exécution sur les machines? À partir du moment où est-ce que tu tors ça? C'est pas mal tout le temps juste une question de es-tu assez fort pour rentrer un stress d'entraînement différent? Puis es-tu capable de tolérer assez de stress d'entraînement? Comme pour la plupart du monde, ça a pas mal sérieusement à ça. Puis il y en a tout le temps un des deux que la réponse c'est non. Qui fait c'est quoi ton élément limitant? Boum, mon homme, tu tabasses là-dessus. Genre. Puis si tu le sens pas bien travailler ton muscle, c'est ta priorité. Si tu as de la misère à rentrer du travail de qualité, tu focuses vraiment là-dessus. Puis si tu forces, t'es tout le temps, tu prends tout le temps les mêmes charges, tu es comme un certain plateau depuis un certain temps, bien probablement que ta technique ne chie pas quand tu prends plus lourd. Bien là, ce que tu fais, parce que là, ça deviendra un échec technique, c'est plus un échec comme de force, mais là, tu travailles ta force. T'sais. Puis en termes de performance à course à pied, j'en ai parlé un petit peu, mais quand tu performes pour de quoi, ce que tu veux, c'est faciliter ta récupération. Il faut que tu sortes de ton déficit calorique. Si tu essaies d'arriver le plus lean possible, il y a un coût de récupération qui est associé au déficit. Genre, à force de manger moins, ça rend ta récup un peu plus dur. Puis ça fait que tu es moins actif, tu as plus de misère, tu dors moins bien. Dépendant de l'amplitude du déficit calorique, mais c'est une des raisons pour lesquelles tu ne veux pas être en déficit non-stop. Et pour la performance, indépendamment de c'est quoi le marqueur de performance, tu veux vraiment ôter ça, quitte à même faire un léger surplus calorique. Ah, prendre un peu de gras, mon Dieu, c'est horrible, pêcher. Pas vrai, on s'en fout. Maintenant, ça peut avoir un impact positif sur la performance, ça, puis c'est important de ne pas baser là-dessus. Puis c'est pour ça que c'est important de séquencer tes affaires de manière à progresser dans le temps. Parce qu'ultimement, même si ton workout est vraiment parfait, tu ne passes pas grand-chose en 4 semaines ou en 6 semaines. Où est-ce que la magie va être? C'est dans la manière de structurer toutes les phases d'entraînement, de manière à ce que toutes les phases, c'est plus juste des additions. C'est plus 4 semaines plus 4 semaines plus 4 semaines. C'est 4 fois 4 fois 4. Puis là, toutes tes phases sont synergiques. Puis là, ça fait que tu as plus de gains. Ce qui est la raison pour laquelle moi, je travaille avec des périodisations. Ça semble pas mal à ça. Je pense que j'ai fait quand même un bon petit tour d'expliquer ce que je voulais faire. Je vous laisse avec. Donc, je vais faire un petit recap. Premier petit recap, vraiment, vraiment très important. Ciblez vos fucking priorités d'entraînement. C'est vraiment, vraiment important parce que si tu essaies d'aller nulle part, si tu essaies d'aller partout en même temps, je te jure à chute que la seule affaire, que la seule place que tu vas aller, c'est nulle part. Ça donne absolument rien d'aller à 300 km/h d'un bord si tu vas de l'autre côté. Okay? Ça donne trop de rien d'aller 300 km/h vers l'est si ta destination est vers l'ouest. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important de vraiment, vraiment très bien cibler ça. Puis la deuxième affaire, c'est de comprendre, puis je ne fais pas un recap du podcast au complet, mais de vraiment cibler des indicateurs clés en fonction des objectifs puis d'exécuter violemment ces indicateurs clés en se laissant d'être le moins distrait possible par autre chose. Puis c'est vraiment, vraiment important parce qu'il y a bien du monde qui n'ont pas de résultats parce qu'ils font juste sauter d'un programme à l'autre ou qui essaient tout le temps 10 000 affaires. Condense-toi quelque chose, dédie-toi quelque chose 4 à 6 semaines. Si ça ne marche pas, après ça, tu ajustes, puis là, tu transitionnes, mais tu devrais. Il y a beaucoup de plans qui ne fonctionnent pas, pas à cause que le plan n'est pas bon, mais juste à cause que le monde, tu ne donnes pas assez de temps parce qu'il se laisse distraire par un autre programme, par un autre supplément ou par un autre diète. Fait que c'est pas mal ça. Je vous laisse avec la fin de la toune. Vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous rendre ces fameux emails. Je mets beaucoup de temps, beaucoup d'amour ces emails. Puis on s'en parle très bientôt. Le lien est dans la description. On s'en parle très bientôt, tout le monde. Ciao, bye! And I don't wanna believe that maybe this is the end. I know you're kind of a tease, but is this really pretend? Something tells me I'm wrong, but you